Chapitre 12. Poum poum. De retour aux Uzelles, Madame Fénigan, à sa grande surprise, n'eut pas à se défendre contre la hâte amoureuse de son fils. Il restait silencieux, morose, tendre cependant pour sa mère, redevenu son Richard des veillées en commun et des parties d'échecs. En jouant, leurs fronts penchés se touchaient presque, mais quel abîme entre leurs deux pensées. Que lui est-il arrivé? Songeait la mère. Cette barre entre les yeux, ce froncement de narines, et puis son éternel chantonnement. C'est un accès, je suis sûre que c'est un accès. En aurons-nous pour longtemps? Richard, lui, se disait. Elle a bien fait de ne pas l'amener. Ma plaie est trop à vif encore. Il vaut mieux attendre quelques jours. Rien que pour ce nom de Charlet prononcé devant moi, me voilà repris, enragé. Si ma pauvre amie avait été là, je l'aurais torturée, sans pitié pour sa faiblesse. Pourtant, après une semaine de bourrasques intimes et d'accalmie, il vint dire à sa mère, qui n'avait cessé de lui donner des nouvelles de Lydie, comme si elle était encore à Quiberon. « Maintenant, je suis sûre de moi. Allons la chercher, veux-tu ? » Madame Fénigan sourit. « Nous n'avons pas loin à aller. »« Comment ? » ?»« Avec le landau, à peine une demi-heure. » »« Une demi-heure d'ici à Quiberon ? Je ne comprends pas. » »« Mais Lydie est à l'orphelinat depuis mon retour. » »« Ne t'émotionne donc pas, grand enfant. On attellera après déjeuner et ce soir enfin, tu ramèneras ta femme au pavillon. Est-ce cela ? Es-tu content ?» Quels mots, quels cris auraient pu rendre la joie inquiète de Richard Fénigan, assis à côté de sa mère, dans le landau qui roulait vers Soisy, entre la forêt et la Seine. Un beau jour de froid clair, du vent, du soleil, de la neige. Et sa poitrine se gonflait au souvenir d'après-midi semblables, passés dans le parloir aux boiseries claires, l'hiver où il faisait sa cour à Lydie. Comme aujourd'hui, le soleil flambait sur la neige que soulevait la bise en poussière fine. Comme aujourd'hui, les paroles manquaient à son ivresse et, du cantique entonné par toutes les fibres de son être, rien ne sortait, rien ne s'entendait, que les battements de cœur marquant les temps à sa muette émotion. 10 ans écoulés depuis, sur cette même route, dans ce même paysage tout en blancheur, sa mère essayait comme alors de le distraire en parlant seule au fond de la voiture. « J'ai fait préparer le pavillon. Vous dînerez tous deux dans l'atelier. Le premier soir, j'ai pensé que ce serait mieux. Puis, demain, nous recommencerons la vie ensemble. C'est Lydie qui me l'a demandé. Il y a tant de bonté délicate dans cet enfant, et fine, et distinguée. Je commence à croire avec sœur Martha qu'il y a chez elle une vraie noblesse d'origine. Elle est née grande dame. Ah, nous voici arrivés !» Le landau vint se ranger sans bruit sur la neige au bas du grand escalier où sœur Martha les attendait. « Voilà qui nous rajeunit de 10 ans, monsieur Richard !» dit l'Irlandaise avec ses paroles et ses gestes ardents. « C'est moi, vous rappelez-vous, qui vous amenais dans le parloir. Cette fois, vous trouverez notre chère fille dans sa chambre. » « Votre mère et moi vous y rejoindrons tout à l'heure en sortant de chez Mademoiselle de Bourron. » Resté seul dans le couloir, Richard hésita une minute. L'émotion garrottait ses moindres gestes. De la chambre, où on l'attendait sans doute, une voix dit avant qu'il eût frappé « Entrez !» Une douce, chère voix, depuis longtemps inentendue. J'irai à elle les bras ouverts, je l'aurai contre ma poitrine avant de prononcer une parole. Voilà ce qu'il s'était promis. Elle, pareillement, voulait se jeter à son cou, lui fermer la bouche d'une longue étreinte. Rien n'arriva de ce qu'il projetait, parce qu'ils avaient, comme on dit, compté sans leur hôte, et l'hôte ici, c'était la chair, la belle, savoureuse et détestable chair. Lydie, quand il entra, se tenait debout devant la croisée du fond, tout éblouie de neige. Sur ce blanc vitrail, sa taille se découpait, svelte et pleine, moulée dans une robe de lainage rosé. Sa jolie tête à contre-jour s'ébouriffait de cheveux annelés et fins, et ses yeux assombrissaient leur gris nacré. Il s'arrêta, saisi de la retrouver jeune et belle comme en ses rêves les plus passionnés, mais avec un enveloppement de grâce voluptueuse qu'il ne lui connaissait pas, gagné ailleurs peut-être au bras de l'autre. Une saveur mauvaise qui, à la fois, l'attirait et le repoussait, l'enivrait d'amour et de rage folle. Immobile à deux pas, il lui semblait que s'il s'approchait, s'il la frôlait, ses doigts invinciblement se noueraient en garrot autour de ce cou de tourterelle pour le punir des caresses de l'autre. En même temps, une affreuse brûlure au-dessous du cœur l'avertissait que le mal l'avait repris, et il en concevait un désespoir profond devant l'impossibilité de recommencer la vie à deux, puisque dans la beauté même de sa femme était le foyer de ce mal, quand, la regardant, chaque fois, il s'affolerait de jalousie. Et toutes ces sensations qui le traversaient, promptes et violentes, se résumant dans une grande envie de pleurer, il baissa la tête et dit d'une voix sourde, avec un tremblement de la lèvre inférieure, « Bonjour, Lydie !» C'est tout ce qu'il trouva pour cette minute tant espérée. « Bonjour, Richard !» répondit-elle en écho. Puis un silence où s'entendait le grésillement du coq dans la cheminée, la mélopée d'une dictée qui montait de la classe des grandes. Soudain, sur la route assourdie, ouatée de neige, un piston et un violon en marche enlevèrent les premières mesures guillerettes d'un quadrille, déchirant l'atmosphère de gêne et d'angoisse qui les opprimait. « Une noce !» murmura Lydie machinalement. Et Richard, s'approchant avec elle de la croisée, ajouta « C'est donc samedi ?» Comme autrefois, pendant les fiançailles, la route, la vieille route, leur venait en aide. « C'est un samedi que nous sommes arrivés de Bretagne avec mère. » Ce mot de mère, dit par elle tendrement, fut pour Richard bien doux à entendre. « Je me suis réveillée au bruit d'un crin-crin de noces comme celui-là. Le plaisir que ça m'a fait !» Richard, qui regardait le défilé, dit tout bas sans tourner la tête. « Tu ne l'as donc pas oublié, notre route de corbeille ?»« Oh non !» répondit-elle. Et, regardant au dehors, elle aussi, elle lui montrait le père Sautecœur revenant de la gare avec son garçon. Encore une de leurs figures habituelles, le vieux garde-chasse allant au-devant de son fils tous les samedis et rentrant en forêt avec lui, tantôt par les Uzelles, tantôt par Soisy, selon les peuplements qu'il avait à surveiller. Le garçon passait son dimanche à l'ermitage et le lundi matin, sa femme le reconduisait, le père allant au rapport. Ces deux géants, marchant serrés l'un près de l'autre au pas militaire, épaule contre épaule, sans se parler, rien n'était plus attendrissant. « Il est donc de retour du régiment, le fils Sautecœur ?» À peine cette remarque faite, Richard en fut désespéré, car il venait d'évoquer dans leurs pensées inquiètes l'image du jeune prince servant au même escadron que le garçon de Gênes. Il s'était dressé en apparition, sa taille élégante, sa tête frisée de jolies coquines. Et, de nouveau, un silence lourd les étouffa. Heureusement, une autre silhouette venait les distraire, le père Georges, avec sa besace et sa trique, assis au soleil en face de l'orphelinat, sur une borne dont il avait secoué la neige. Richard s'étonnait que, si vieux, il eût pu se traîner jusque-là par un temps pareil. « Il semble qu'il ait deviné ma présence dans la maison, » ajouta Lydie. « Toutes les fois que je soulève mon rideau vers ces heures-ci, je suis sûre de le trouver à la même place. » Curieux, en effet, l'attachement de bon vieux chien que ce mendiant semble avoir pour toi. Après ton départ, on le ramassait tous les matins, ivre-mort devant notre porte. Je me suis figuré que c'était par chagrin, et tout attendri de cette idée, je l'ai recueilli dans ma petite baraque du bord de l'eau. Pendant que tu avais tant de raisons de me détester, tu faisais cela? Oh, mon Richard, que tu es bon! Et tout émue, elle lui prenait la main, l'approchait de ses lèvres. Mais Richard se dégagea d'un geste brutal dont il eut honte tout de suite et lui demanda pardon dans un sanglot. « Oh, ma femme, ma femme !» Elle eut une plainte déchirante. « Je savais bien que ce n'était pas possible !»« Si, si, je te promets, mais plus tard !» Madame Fénigan et sœur Martha venaient d'entrer. Un regard suffit à la mère pour comprendre. Mais l'Irlandaise, moins clairvoyante, s'écria gaiement. Le voilà donc, ce méchant homme, qui vient me prendre mon enfant pour la seconde fois. » Lydie l'interrompit très vite. « Eh bien non, ma sœur, je ne m'en irai pas de sitôt. Richard vous demande, moi-même, je vous supplie, de me garder encore quelque temps. » « Aussi longtemps que tu voudras, chère fille, » répondit sœur Martha, ses grands yeux limpides élargis de surprise. « Seulement, nous aurons du mal à te cacher. Nos orphelines circulent dans la maison maintenant. Déjà, j'ai dû mettre plusieurs de nos dames dans la confidence. » « Rassurez-vous, ma sœur, » lui dit Richard, en laissant voir l'effort douloureux que lui coûtait chaque mot. « Nous ne vous demandons que quelques jours, le moins possible, n'est-ce pas, Lydie ?»« Oui, mon ami, » répondit la jeune femme sans assurance. En bas, une cloche sonnait la fin de la classe. Des cris aigus, des rires clairs montaient du petit jardin et venaient battre la vitre avec les branches d'un mélèze lourde de neige. « Nos fillettes vont aller à la prière. » Sœur Martha s'adressait à Madame Fénigan et à son fils. « Si vous voulez échapper aux regards, aux indiscrétions... »« Allons, » dit Richard péniblement. Il eut un élan vers sa femme, le désir fou de prendre sa petite tête à deux mains. Et déjà, elle approchait son front, fermait ses paupières frissonnantes, quand il lui tendit simplement en adieu l'étreinte de ses deux mains brûlantes. Les fenêtres du pavillon flambaient au bout de la charmille obscure, avec le blêmissant reflet de la neige par terre et sur les arbres, quand la mère et le fils rentrèrent aux Uzelles. C'était le petit festival préparé pour la réconciliation des époux. « N'y va pas, ça te ferait trop de peine !» dit Madame Fénigan, décidant Richard à la suivre dans le salon où l'attendait Napoléon Mérivée qu'elle avait invité ce soir-là pour ne pas dîner seule. « Eh bien, quoi? Et votre femme ?» demanda au pauvre garçon le bonhomme, debout devant la cheminée où fumaient ses bottes ruisselantes. « Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu !» dit Richard bas et violemment, pendant qu'un geste de la mère demandait de la discrétion à leur voisin. Lui-même avait de grosses affaires en tête, dont il entretint ses amis tout le temps du dîner. Le curé de Draveil et le conseil municipal ne s'étaient-ils pas imaginés de lui faire ouvrir de force la petite paroisse qui ne lui appartenait plus, puis il en avait doté la commune. À quoi le vieux Napoléon répondait que, payant le desservant et le sacristain, le droit de les choisir lui revenait naturellement. Tant que l'abbé Serret serait vicaire de Draveil, nul autre prêtre que lui ne dirait la messe à la chapelle au bord du chemin. De là, démarches hypocrites du curé auprès du conseil. « On va donc laisser les Uzelles sans Dieu autant que durera la pénitence de mon vicaire ?» Et toutes ces bonnes têtes de la municipalité tombaient dans le panneau, sans se douter qu'il s'agissait de quelques sous à faire entrer en surcroît dans l'aumônière déjà très bien garnie de ce mauvais prêtre. « Mais par le nom glorieux que je porte, » disait Napoléon Mérivée, brandissant son couteau à dessert au-dessus des convives, « j'en débarrasserai la commune, quand je devrais m'adresser au souverain pontife qui voulut bien me décorer de l'ordre de Saint-Grégoire. « En attendant, vous voilà forcé d'ouvrir votre église, » interrompit Madame Fénigan, que sa colère amusait. « C'est ce qui vous trompe, madame. Dès demain, Moulin, le maçon, enverra ses ouvriers déblayer la neige du clocher et faire quelques rejointements. Ce sera long, la saison est mauvaise, ces ouvriers de campagne si lambins. Ils auront à peine fini le jour où mon cher abbé sortira de la trappe d'Aiguebelle. » Et l'indignation du vieillard s'éteignit dans un rire franc et sonore. Restés seuls au salon, la mère retirée dans sa chambre, les deux hommes eurent un de ces longs et intimes épanchements dont l'habitude leur était venue depuis la causerie du champ de pavot. Le plus jeune mit son cœur à nu, étala ses faiblesses, ses tortures ravivées à la première entrevue. « J'ai compris que si je l'emmenais, nous allions recommencer une existence affreuse. Pourtant, j'ai pardonné et de tout mon cœur. Qu'y a-t-il donc en moi qui se révolte, qui ne consent pas ? Ah, mon ami, vous ne m'aviez pas dit que ce serait si difficile. » Il parlait en marchant, jetait ses phrases violemment avec des gestes de semeur d'ivraie. Le vieux, nerveux aussi mais se maîtrisant, fourrageait le feu. « Je connais ça, j'y ai passé. Quand mon Irène est revenue et que la nuit, je découvrais sur son visage endormi, là, sous les yeux, au coin des lèvres, de petites rides tracées loin de moi, comme des morsures de baisers. Si tu crois que toute ma chair ne se hérissait pas, mais j'avais la bonne parole, l'appui, le guide que je t'aurais tant désiré pour ces rudes instants. » Cérès me parlait fortement, durement, comme il t'aurait parlé. Eh oui, elle a été à un autre. Elle n'est plus la femme d'un seul homme. Mais à qui la faute? Toi qui te plains, es-tu sûr de lui avoir été toujours fidèle? Es-tu l'homme d'une seule femme? Une musique criarde, suivie d'un tumulte de voix en débandade, passait dans la nuit ouatée et sourde. La noce qui va se coucher, fit le vieux joyeusement. Quand je pense qu'à cette heure-ci, ta femme et toi, si vous aviez voulu... Allons, Richard, laisse-toi être heureux. Achète votre bonheur au prix d'un peu d'orgueil. Essaie de te calmer pour reprendre ta femme, la refaire tienne. C'est l'affaire d'une étreinte. Il essaya en effet, mais vainement. Dans ses précédentes crises, quand la cause extérieure et déterminante disparaissait, le mal s'éloignait avec elle. Maintenant, la beauté de Lydie était comme un réservoir qui, sans cesse, alimentait sa colère jalouse, s'aggravant à chaque rendez-vous de la continuelle tentation et de l'idée qu'un autre que lui, que d'autres lèvres que les siennes... Ah, pourquoi m'avoir empêché de le tuer? Tant qu'il vivra, je le sentirai entre nous. C'était la fin de toute leur causerie, en ces heures brisantes qu'il passait aux genoux de sa femme, à la torturer de plaintes, de reproches suivis de longs silences, où résonnaient les voix des fillettes en classe et les rumeurs familières de la route d'hiver, la cloche du bouilleur de cru, le bossu avec son cri « Débat, débat, des chaussures !» Le lent grincement des roues d'une caravane au petit rideau rouge, au mince filet de fumée sur le toit reluisant de pluie. Il fallait se décider pourtant. Lydie ne pouvait rester plus longtemps hors de chez elle et si près de sa porte. « Voici ce que je vous conseille, » proposa le vieux Mérivet. « Je suis obligé d'aller passer 2 ou 3 mois en Algérie pour la liquidation de mes alphas. Lydie viendra vivre près de Madame Fénigan, reprendra sa place dans la maison pendant que j'emmènerai Richard avec moi. Le voyage lui sera un dérivatif excellent. C'est ce qui lui a toujours manqué. » Il a trop vécu sur lui-même. Je crois qu'au retour, il sera guéri. En tout cas, nous retrouverons ici l'abbé Cérès, la petite paroisse ouverte, et si Richard veut y entrer, le miracle que j'ai vu si souvent s'opérera une fois de plus. Quand partez-vous? Le plus tôt possible, cher enfant. Eh bien, demain, j'installe ma femme au pavillon, nous y passons une journée ensemble, ce sera l'effort suprême. Si je ne suis pas content de moi, si je la rends trop malheureuse, le lendemain, au petit jour, vous me verrez chez vous, prête à partir. »